On a parlé du premier chapitre la semaine passée. On a vu que c'est un livre mystifiant et épeurant, le livre d'Apocalypse. Puis c'est peut-être le livre le plus connu de la Bible dans notre monde. Même les gens qui ne connaissent rien sur la foi chrétienne, mais souvent dans les films ou dans les bandes dessinées, les romans illustrés, tout ça, on va parler de l'Apocalypse, puis les gens vont être attirés vers les images grandioses et épeurantes de l'Apocalypse. Mais moi, je vous propose une possibilité pour comme voir la structure du livre et une manière de lire. Est-ce que je continue? Est-ce que vous êtes capable de me comprendre? Oui? On va aller à la prochaine diapo. Remonte à la source, c'est le thème du texte qu'on va voir tantôt. Mais on va aller à la prochaine diapo, Cheryl. La manière que l'Apocalypse, une manière de le lire, c'est toujours revenir au chapitre 1. Le chapitre 1, c'est la vision qu'on a considérée la semaine passée. Jésus se révèle à une église qui souffre. Et puis, c'est comme un genre d'électrochoc. On va vous envoyer des électrochocs ce matin avec le micro pour vous réveiller. Mais c'est un peu ça que Jésus fait. Il vient réveiller Jean, le prophète Jean, et à travers lui, il va réveiller toutes les églises. Et dans les des chapitres 2 à 3, ça, c'est des messages à l'église. Aux églises, en fait, il y a 7 lettres qui viennent de Jésus lui-même, le Jésus céleste. Dans cette vision, le Jésus céleste donne 7 lettres à 7 églises et pour leur dire, voici, je suis victorieux et voici ce que vous devez faire pour vous préparer pour le combat qui s'en vient. Et puis, il y a comme un éclairage qui est donné à la vision du chapitre 1. Et la troisième partie, c'est le reste. On va être transporté dans un autre monde. On va voir des visions absolument mystifiantes et dérangeantes et troublantes et encourageantes. Et ça aussi, ça va nous ramener au chapitre 1. Qui est ce Jésus qui vient se révéler à l'Église, qui doit combattre? D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va toujours revenir au chapitre 1. On va faire un va-et-vient dans le livre de l'Apocalypse et toujours revenir à cette vision de Jésus qui doit être aussi quelque chose de central, quelque chose de motivant pour nous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vrai que le temps avance, mais en tout cas, je vais vous lire la doxologie du chapitre 1. Ça, c'est une doxologie, ça veut dire une genre de prière d'adoration qui est rattachée à la vision du chapitre 1. Et donc, c'est un texte important de l'Apocalypse. Voici ce que Jean, il éclate en louange, il dit ceci en parlant à Jésus, à celui qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais ça avait été mis en musique, ça. Et un jour, on va le chanter ensemble. Et en le chantant, on va l'apprendre par cœur. Mais là, on va continuer. On va sauter dans la deuxième partie du livre, après la vision. Jésus, il dit à Jean, qui est complètement électrifié par la vision, il dit, « Maintenant, je vais te dicter 7 lettres pour les 7 églises. » Et 7, c'est un chiffre symbolique. En fait, les 7 églises qui sont mentionnées dans les chapitres 2 et 3 existaient vraiment à cette époque-là. Elles sont toutes en Turquie du Sud. Ouest, OK? Des villes autour d'Éphèse. Et c'est des églises qui existaient, mais il y en avait plus que 7 dans la réalité. Alors, le chiffre 7 symbolise la plénitude. Donc, ce sont des messages pour les églises de cette époque, mais aussi pour nous. C'est des messages pour les églises de tous les temps. On peut le prendre pour nous, et c'est ce qu'on va faire ce matin. OK? Vous verrez que ces différents messages, ces sept messages, ils diffèrent entre eux. J'ai remarqué qu'il y en a cinq qui contiennent plutôt des messages, pas seulement positifs, mais négatifs, des corrections. Et il y en a deux qui sont presque complètement élogieuses. Ça veut dire que, dépendamment de l'Église, le message de Jésus est différent. Et donc, il ne faut pas prendre chaque lettre complètement pour moi ou pour mon Église. Il faut les lire toutes et dire, bien, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre vie ou dans l'expérience de notre communauté, il y a telle lettre qui va être applicable pour nous, puis à tel autre moment, ça va être plus une autre lettre. Et ce matin, on va considérer une des lettres. On va lire maintenant Apocalypse 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est le message de Jésus à l'Église qui est à Éphèse. Alors, on va lire. Et vous pouvez ouvrir votre Bible à Apocalypse 2, c'est les sept premiers versets. Mais pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez ça ici, à l'écran. Donc, voici ce que Jésus y dit. « Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici celui... » Pardon, je recommence. « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. » Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as persévéré, et tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, on voit ici un côté sévère de Jésus, mais qui est inclus dans son plan d'amour. Et c'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre, qu'il y a les deux côtés et comment ils sont liés les uns aux autres. Et comme j'ai dit, dans chaque lettre, ça se présente différemment. On va se poser trois questions. On va voir que dans toutes les lettres, Jésus dit aux chrétiens, il dit aux églises, « Revenez à la source, revenez à moi ». C'est ça la solution à votre difficulté en ce moment. Ou c'est ça qui va vous aider à continuer de bien faire ce que vous faites. Revenez à moi, je suis la source. Et pour voir ça, on va poser trois questions à cette lettre. C'est qui celui qui parle? Comment se présente celui qui parle, premièrement? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il voit dans l'Église en question, l'Église à Éphèse? Puis troisièmement, quel progrès, quelle rectification demande-t-il? Alors, la première question, qui est ce Jésus qui parle? Comment est-ce qu'il se présente? Alors, on voit dans le verset 1, qui est voilà en haut ici, que Jésus va rappeler qu'est-ce que Jean vient de vivre, la vision qu'il a reçue au chapitre 1. Jésus marchait au milieu des chandeliers et dans sa main droite, il tenait les sept étoiles des églises, les sept étoiles, exactement. On a vu la semaine passée, dans cette vision, que Jésus marche au milieu des églises en leur donnant la force de briller dans le monde. Du point de vue humain, on regarde autour de nous et puis on se dit, waouh, le monde, il y a de belles choses dans le monde, il y a des choses extraordinaires, mais le monde est chaotique, le monde a beaucoup de difficultés et ce n'est pas toujours évident que l'Église chrétienne est la solution aux problèmes du monde. Oui, ici et là, il y a de belles églises qui brillent. Il y en a d'autres qui brillent un peu moins bien. Et puis, parfois, on dirait que c'est désorganisé. Cheryl et moi, on traversait en auto un quartier de Montréal, je pense que c'était vendredi soir, elle dit, « Je viens de voir trois églises vraiment proches l'une de l'autre qui ont quasiment le même nom. On dirait qu'on est vraiment désorganisé, la famille chrétienne. » C'est une vision perplexante, mais justement, l'autre vision, celle que Jésus donne à Jean et nous donne dans l'Apocalypse, donne un éclairage de l'autre côté. C'est que derrière la désorganisation apparente, puis la difficulté des églises, il y a Jésus qui marche à travers les églises. Il marche parmi les chandeliers. Il tient l'Esprit qui anime les églises. C'est lui qui dispense la vie. C'est lui qui dispense la plénitude de Dieu aux différentes églises. C'est lui le chef d'orchestre. Et il a déjà gagné le combat. On peut lui faire confiance. C'est un peu comme regarder une broderie. Alors, il y a des personnes ici qui font de la broderie, je crois. Cheryl, elle fait de la broderie au point de croix, le cross stitch, comme on dit en anglais. Et moi, ça m'a toujours comme perplexé, je vais le dire comme ça. Tu regardes d'un côté, c'est un fouillis total. Il y a des fils qui vont un peu partout, les couleurs se mélangent. C'est pas beau. Mais j'ai besoin d'une autre vision. J'ai besoin que le tissu soit retourné. De l'autre côté, je vois le but, et c'est une image magnifique qui peut être des fleurs ou un paysage ou un personnage ou autre. Et c'est la même chose que Jésus est en train de faire dans le livre de l'Apocalypse. Il donne une vision de ce qui se passe dans l'invisible. Jésus est en charge. Jésus est en train de diriger son Église. Amen. Et c'est comme ça qu'il se présente au début de la lettre. Faites-moi confiance. Il va mentionner l'Esprit. Alors, il y a les sept étoiles qui sont les sept esprits. Et certains vont dire, c'est une manière symbolique de parler du Saint-Esprit. Il y en a qui vont dire, c'est plus des anges. Mais de toute façon, c'est Jésus qui dispense les forces spirituelles qu'il nous faut pour marcher en tant qu'Église et en tant que chrétien, chacun de nous. Mais au verset 7, si tu vas un peu plus loin, Cheryl, verset 7, que celui qui a des oreilles... c'est pas Cheryl. J'ai une vision. Elle est où? Elle est où, ma femme? Ah, OK! Et merci, Troy. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est que tous les livres de la Bible présupposent ou disent même clairement qu'il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes, qui est trois personnes en une seule divinité. Pas trois dieux, mais trois personnes divines qui sont un seul Dieu, une seule nature divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et de la même manière, amen, oui, vous êtes d'accord? Oui, c'est un mystère. Si tu ne comprends pas, c'est correct. Mais C'est la Bible qui impose ça à notre intelligence. C'est, on voit que même ici à l'Oasis, bon, il y a des messagers comme moi ou Liette ou quelqu'un d'autre qui va vous parler, mais à chaque fois, c'est Jésus qui se manifeste. Il veut nous ramener au Père, puis il y a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous donne la force de croire. Je le dis mal, mais c'est toujours l'action des trois. Et c'est merveilleux. Et l'autre chose que je voulais dire concernant cette première question, qui est ce Jésus qui parle, c'est cette combinaison de sévérité et de bonté. Et il y a un verset dans Romains chapitre 11, qui est à la prochaine diapo, Troy. Paul va le dire autrement dans un autre contexte, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Dieu, Jésus, a toujours cette combinaison-là. Le plus important, c'est son amour, sa bonté. Il veut nous amener, ici, il est dit, il veut t'amener à vraiment être dans le paradis de Dieu, manger de l'arbre de la vie, jouir de la vie éternelle pour toujours. Jouir de sa présence. C'est ça le but. Mais pour y arriver, des fois, il doit user de sévérité pour nous corriger. Et des fois, ça peut sembler très sévère. Ici, ce que Jésus ressuscité dit, ça mérite d'être mentionné. Là, on va revenir, Troy, au verset 5, qu'une église qui n'obéit plus, qui continue les rituels, mais qui n'écoute plus le cœur du Seigneur, ça peut en arriver à ce que Jésus dit, je vais enlever ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Aïe, aïe! Je vous signale que il n'y en a plus d'église à Éphèse aujourd'hui. En fait, il n'y a plus de ville d'Éphèse. Elle a été complètement détruite. Mais ce que je veux dire, c'est que Jésus, lui, il a une victoire à établir sur le monde entier. Et puis, disons les choses clairement, si une église, on va le dire pour nous-mêmes, si un jour l'Oasis décidait que non, on n'a plus besoin du Seigneur, on a nos traditions, on a notre propre intelligence, bien, la vision nous dit, Jésus il est capable de dire, bien, moi, le chandelier que j'avais placé à l'Oasis, je vais le mettre ailleurs. C'est terrible, mais il faut garder ça à l'esprit. On a un travail à faire pour revenir à la source, rester accroché à Christ. Je ne veux pas vous faire peur. Jésus nous donne tous les outils pour rester en lui et il veut faire prospérer son Église. Mais il a un travail à faire et il nous invite à travailler avec lui. Par rapport aux individus, ça peut arriver aussi dans le pratico-pratique que quelqu'un va recevoir un sentiment du Seigneur. Je dois quitter une église locale qui est moribonde, et je souhaite que ça ne soit jamais le cas ici à l'Oasis, mais et le Seigneur va le rediriger dans une autre paroisse, une autre église, où le chandelier brille plus fort. Voyez-vous, ça peut en arriver là, et il faut quand même être à l'écoute des choses parfois dures que le Seigneur nous dit. Tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Qui est celui qui nous parle, un Dieu d'amour et de bonté, mais qui doit des fois être sévère avec nous pour nous garder dans sa bonté. Deuxième question, que voit-il dans l'Église? Oui, on reste ici dans le texte. Jésus, on voit comment il apprécie différentes choses dans une Église locale et dans le cœur d'un chrétien. Il regarde profond. Jésus regarde jusqu'au plus profond. Il y a des choses qu'il dit qu'un humain peut voir Il y a des choses, c'est beaucoup plus difficile pour un humain de voir. Au verset 2, Jésus va valoriser le fait que l'Église qui est à Éphèse, ce qu'ils ont fait de bien, ils ont testé ceux qui venaient et qui disaient « Je suis un apôtre ». Ils les ont testés et ils les ont trouvés menteurs. Ça, ça veut dire que c'est une Église qui a un attachement à la saine doctrine. OK? Parce qu'à l'époque, quelqu'un, et encore aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un qui vient à nous et qui dit « Écoutez-moi, parce que j'ai reçu une vision, je suis un apôtre. » Il y a un danger, là. Il y a un risque. Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui établit la doctrine. Et c'est pour ça que dans l'Alliance, dans notre groupe d'Église, on dit il y a des apôtres avec un petit A qui sont ceux qui vont en mission fonder les Églises. Je pense à Dan Wolfe. Certains l'ont connu. C'est lui qui a, avec d'autres, qui ont fondé l'Oasis il y a une quarantaine d'années. Ça, c'est un petit apôtre qui ne dit pas « Je suis un apôtre, écoutez-moi, je reçois directement de Jésus la doctrine de l'Église. » Mais quelqu'un qui dirait le deuxième, il se déclare apôtre avec un grand A. Et il y a maintenant, aujourd'hui, un mouvement d'Église indépendante qui apparemment, sont fondés par des apôtres, des gens qui se déclarent apôtres. À mon sens, ils se donnent un A majuscule. Et je crois qu'il faut être prudent. Il faut être prudent parce que est-ce qu'ils se donnent une autorité d'ajouter ou de retrancher à ce que les apôtres, les douze que Jésus a établis, on peut dire 13 si on ajoute Paul, ils ont laissé comme doctrine dans l'Écriture sainte. Et en tout cas, dans l'Alliance, nous, on dit, on s'en tient à la parole des 12 premiers. Et ça ne veut pas dire que Jésus ne parle pas encore, mais c'est toujours testé par rapport à la parole des apôtres. Alors, tout ça pour dire, au moins souvenez-vous de ce point-ci, l'attachement à la saine doctrine, c'est une valeur que Jésus souligne, d'accord? Et c'est aucunement un appel dans cette lettre à baisser les standards, dire, bien, la vérité, la doctrine, ce n'est pas important. Jésus ne dit pas ça. Il dit, tu as testé ceux qui venaient enseigner, bravo. Même chose pour la droiture du comportement, OK? Il parle un peu plus tard, au verset, le verset 2, mais en particulier au verset 6, les fameux Nicolaïtes, personne ne sait c'est qui. On a fait des recherches, puis il y a des théories, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils avaient un comportement mauvais, des œuvres mauvaises, et Jésus dit aux Éphésiens ici, « Vous avez pris position contre leurs mauvaises actions, vous avez haï leurs actions, » pas les personnes, mais les actions. Et moi aussi, j'ai haï ces actions. Donc, là aussi, aucun appel à baisser les standards au niveau moral. Hein? Donc, par exemple, quand on parle d'amour, parce que Jésus va arriver à l'amour, l'équilibre qu'il faut avoir, le dynamisme qu'on veut, c'est avoir de l'amour pour les personnes. Accueillir les gens là où ils sont rendus, et leur parler de Christ, les aimer, mais en même temps, garder les standards selon la Bible. Par exemple, dans le domaine de la sexualité, du mariage, de la vie de famille, il y a des standards que Dieu a établis. J'entends Jésus qui nous dit, gardez vos standards hauts, comme ceux qui sont dans la parole de Dieu, mais grandissez dans l'amour, grandissez dans l'accueil des gens là où ils sont rendus. Ne jugez pas les gens. C'est un équilibre qui n'est pas facile, mais que nous cherchons à vivre ici à l'Oasis et qu'on va continuer à vivre. Jésus voit aussi la fidélité et la persévérance. Il y a des anciens dans l'église à Éphèse. Jésus leur dit, « Bravo, vous avez persévéré, puis vous continuez à faire les œuvres que vous faisiez au début. » Et parmi nous aussi, à l'Oasis, on a des vieux de la vieille. Ce n'est pas pour vous insulter. Il y a des gens qui sont ici depuis le début et Jésus valorise. Il y en a d'autres qui sont des vieux de la vieille. Peut-être que moi, je suis un vieux de la vieille, sauf que je viens d'ailleurs. Je me suis joint à l'Oasis en 99 à peu près, mais d'autres qui étaient là en 1980 même. Et on vous dit merci. Et Jésus vous dit merci pour votre persévérance. Il vous dit, je souligne votre fidélité. Mais aussi, il connaît ton historique. Et c'est ça qui est beau ici dans la lettre. Jésus regarde plus profond. Il dit, tu fais les mêmes choses que tu faisais avant, mais moi, je vois que ton cœur, il y a quelque chose qui a changé dans ton cœur. Il y a peut-être eu un glissement dans ton attitude, dans ta motivation. Pourquoi tu fais les œuvres que tu faisais et que tu continues à faire? Jésus vient à toi ce matin en connaissant ton historique. Parce que peut-être c'est une blessure, une grande déception qui fait que tu as décidé de persévérer, mais il y a quelque chose qui a brisé dans ton cœur. Peut-être que Jésus t'appelle à un moment de guérison par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que Forteresse peut t'aider. Allez voir Michel. Vous pouvez venir me voir. Ça se peut que je vous réfère à Michel. Ça se peut qu'ensemble, en priant, Jésus va donner la guérison de cette déception, de cette blessure. Ça peut être aussi le péché. Ça peut être une fausse croyance qui s'est insérée dans ton cœur durant ton chemin qui fait que tu persévères, mais tu le sais, la motivation n'est plus la même. Parce que Jésus, puis c'est ça le dernier point pour la deuxième question, Jésus regarde la motivation profonde. Puis ça fait mal de penser que, hey, je continue à faire qu'est-ce que je faisais, mais Jésus, il voit que ma motivation, ce n'est pas celle qu'il veut. Mais Jésus est Jésus, puis il faut l'écouter. Ce qui l'intéresse, il nous le dit. Il nous le dit dans le texte. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, revenons à la diapo précédente. Et la manière qu'il le dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, ton amour, le premier, tu l'as laissé derrière toi. » La phrase est changée dans l'ordre des mots, mais dans l'original, « Ton amour, le premier, tu l'as laissé derrière toi. » Jésus va toujours te rappeler, va toujours te demander de remonter à la source qui est l'amour. Il veut que ce soit toujours l'amour, ta motivation profonde, pour ta vie chrétienne, pour toute ta vie. Amen. Mais précisons les choses maintenant. Qu'est-ce que c'est que cet amour? On va poser la troisième question, la dernière question. Quel progrès est-ce que Jésus demande à l'Église d'Éphèse? Et à toi ce matin. Le diagnostic qu'il pose, ton amour, le premier, tu l'as laissé derrière toi. Tu l'as abandonné. Il y a quelque chose dans ton cœur qui a changé. Ça montre que Jésus, c'est un Dieu d'amour. Et donc, on peut comparer avec la vie de couple. Ça va nous aider. Dieu, on imagine, plusieurs d'entre nous ont imaginé que le Dieu chrétien, c'est un Dieu de bonnes actions. Il demande, il impose des règlements, il demande des bonnes actions. Et puis, si on les fait, on va le satisfaire. Puis, non, c'est pas du tout ça. Il regarde au cœur. Et puis, c'est un peu comme un couple, comme je disais. C'est très fréquent dans les couples qui veulent avancer, s'asseoir ensemble et dire, regarde, ça fait 10 ans qu'on est ensemble ou ça fait 15 ans. Et on fait les choses qu'on faisait avant, mais est-ce que l'amour est encore là? Est-ce que c'est la même motivation? Et le couple va travailler à rebâtir, à refomenter l'amour du début pour que les actions qui, à la surface, vont peut-être être les mêmes, mais vont être infusées de quelque chose de vrai, de quelque chose qui vient du cœur. Jésus est comme ça avec son Église. Il cherche l'amour. Il nous a aimés. Il veut qu'on soit connecté à cet amour. Il veut qu'on l'aime en retour. Au verset 5, Jésus propose une correction de la situation en 3 étapes. Premièrement, souviens-toi d'où tu es tombé. Deuxième, repens-toi. Change d'attitude. Puis troisièmement, reprends l'action, mais avec la vision renouvelée, avec la nouvelle attitude. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, puis là, recommence l'action. On remarque que Jésus ne dit pas, dans la première étape qui est la plus importante, il ne dit pas, souviens-toi de comment tu étais avant. Moi, il me semble que si ma femme me disait ça, puis je la remercie, qu'elle ne le dit pas. Souviens-toi comment tu étais avant. Me semble que c'est un peu lourd, parce que ça met toute la pression sur moi. Souviens-toi, Jésus dit, d'où tu es tombé. C'est plus une position qu'un regard sur mon comportement passé. Parce que, où est-ce que j'étais lors de la naissance de ma vie chrétienne? Où est-ce que tu étais quand ta vie chrétienne est née? Bien, tu étais connecté à Jésus. Hein? Jésus, il dit, tu étais à la source et tu communiquais directement avec moi parce que c'est moi qui est venu à toi. Je suis cette source d'amour. Cette source d'amour dont tu t'es éloigné. Reviens à la source. Remonte à la source. Hein? Les sources sont en haut de la montagne. Il faut monter, mais plus on monte, plus on est proche, plus l'eau est pure. Remonte à la source d'amour. Reviens dans mes bras, dit Jésus. Je veux t'aimer. S'il y a eu des obstacles qui se sont insérés dans ton cœur entre toi et moi, je vais travailler avec toi pour les éliminer. C'est toi que j'aime. C'est toi que je veux. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je peux savoir que je suis en train de corriger la situation? Peut-être que tu te sens interpellé ce matin, tu te dis, cet amour-là, peut-être je ne l'ai jamais vécu, je veux le vivre. Ou peut-être je l'ai vécu, mais j'ai disconnecté. Comment je peux revenir? En toute humilité, parce que c'est Jésus seul qui est capable de diagnostiquer, mais moi, je peux vous proposer 3 signes que moi je trouve, ça c'est un signe que quelqu'un est proche de la source, est connecté à Jésus. Et ces signes, moi je les prends dans les nouveaux chrétiens, ceux qui viennent de découvrir la foi. Liette avait utilisé l'expression tantôt, les nouveaux convertis. C'est un mot qui est juste, mais qui peut avoir une connotation de quelqu'un qui change de religion. Mais en fait, ce que ça veut dire, quelqu'un qui découvre Jésus, qui rencontre Jésus pour la première fois. Elle l'a bien expliqué. Les nouveaux croyants, premièrement, qu'est-ce qu'ils ont? puis qu'est-ce que nous, on devrait chercher à réavoir, nous, les chrétiens plus vieux? La soif d'apprendre, la soif de contact avec Jésus, la soif d'être avec les chrétiens. Je vous donne un exemple. Une fois, je ne me souviens pas quand, dans la dernière année, j'étais ici en train de m'affairer un dimanche matin, en préparant la célébration. Je reçois un appel sur mon cellulaire, le même cellulaire que maintenant que Réjean est connecté. Là. Bonjour Réjean, es-tu encore avec nous? Oui, il est là. Parfait. Je reçois un appel. C'est Shadan qui venait, si je ne me trompe pas, qui venait de se faire baptiser pas, il n'y a pas longtemps. Elle était en voyage à Québec. Marc, je suis à Québec, mais il fallait vraiment que j'aille mon fixe. Je paraphrase. Je cherche l'église de Lévis, l'église de l'Alliance dans la région de Québec, et mon GPS m'a amené dans un champ. Il y a des vaches à gauche, il y a des chevaux à droite. Je ne trouve pas l'église. Peux-tu m'aider? Alors, comme je fais souvent, je l'ai référé à Michel Houle. Puis Michel Houle lui a dit comment se rendre à l'église de Lévis. Mais moi, je me suis dit, puis c'est pas pour élever Shadan. Shadan est une chrétienne comme moi. On a tous vécu des moments merveilleux et on a tous des luttes, elle aussi. Mais dans ce moment-là, j'ai vu, waouh, ça, c'est un signe de quelqu'un qui a ce feu, qui a cette soif. Hein? C'est le réflexe du oui. Oui, on y va. Oui, il faut. Oui, let's go. Je ne dis pas que des fois, il ne faut pas dire non. Je dis qu'on veut être une culture dans l'essence du oui, let's go, parce qu'on a soif de Christ. Deuxième signe, l'accueil inconditionnel des gens, qui qu'ils soient. Et ça, on le voit aussi dans les nouveaux croyants. Ils voient chaque personne comme une cible de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus voyait les gens. Hein? Et vous vous souvenez quand Matthieu, waouh, le temps avance, j'ai tellement de choses à vous dire. Matthieu, il le voit, c'est un collecteur d'impôts, un gars qui vole l'argent des gens. Jésus dit, viens, suis-moi. T'aimes pas ta job? T'as raison, viens, suis-moi. Matthieu le suit, il l'invite dans un party, il invite des prostituées, il invite d'autres voleurs. Enfin, c'est des collecteurs d'impôts. Je dis pas que les gens qui travaillent pour Revenu Canada sont tous des voleurs, non. Mais à l'époque, mais bref, les gens religieux disaient, pourquoi tu manges avec eux? Jésus a dit, mais parce que je les aime. Et c'est ça qu'on voit aussi dans Jésus et dans les nouveaux croyants. Ils vont vers les autres, ils accueillent les autres. Ils n'acceptent pas nécessairement tout ce qu'ils font, mais ils regardent au-delà pour les aimer. Puis troisièmement, ça va avec les deux premiers, pas d'hypocrisie, pas de théâtre. Les nouveaux croyants et les chrétiens qui sont reconnectés à la source, bien, ils viennent comme ils sont. Ils viennent comme ils sont, ils servent Dieu et ils s'en foutent un peu qu'est-ce que les gens pensent d'eux, parce que leur priorité, c'est connecter avec Jésus. Amen. Et, wow, j'aurais des histoires à vous raconter, mais on va conclure. On va conclure. Donc, on a lu cette belle lettre, la première des sept lettres. Et le Jésus ressuscité prépare l'Église pour être prête pour le combat qui vient. Un combat qui est gagné d'avance, mais il faut être dans la bonne attitude. Et son appel, c'est toujours en gros le même. Reviens te connecter à la source. Remonte à la fontaine qui est moi, qui est ton amour. Et on s'est posé la question, comment Jésus se présente dans la lettre? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il voit dans l'Église? Il voit un paquet d'affaires. Puis troisièmement, quel est le progrès qu'il demande? Et comme on essaie de se poser la question, comment l'appliquer à nous aujourd'hui? Donc, on va aller à la
avancer un petit peu. Oui, voilà. Viens, te dit Jésus ce matin. Remonte à la source, ça veut dire remonte à la montagne, remonte à mes pieds. C'est pas que c'est loin. Jésus est tout proche. Jésus est là, il frappe à ta porte. Remonte à cette source d'amour qui est moi-même. Je t'aime. Je pense qu'il faut que j'arrête de parler puis qu'on prie. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ. Revenir à la source. Puis, soyons libres, mais il ne faut pas t'inquiéter de ce que les gens pensent. Si tu veux prier, tu peux venir en avant, t'asseoir ici. On va prier avec toi. On ne va pas te juger. Et peut-être que c'est parce que tu es une chrétienne depuis longtemps. Tu es un chrétien qui aimerait retrouver le premier amour. Tu peux prier à ta place, tu peux venir en avant. Mais l'appel est sérieux. L'appel est sérieux. Jésus dit, reviens à moi. Viens à la source d'eau pure qui est moi-même. Écoutez, on va tous se lever. S'il y en a pendant la prière qui veulent venir vers l'avant, j'inviterai les anciens qui sont présents à venir, mais on va prier ensemble. Seigneur, c'est toi qui es la puissance, la personne invisible ici, qui nous appelle à toi. Tu nous donnes, Seigneur, des avertissements dans ton amour, parce que tu nous aimes. Tu n'es pas venu nous juger, mais nous sauver. Et ce que tu demandes, ce n'est pas une performance, mais c'est juste qu'on s'accroche à toi, qu'on se lance dans tes bras d'amour. Oh Seigneur, je prie vraiment pour l'Oasis. Je prie vraiment pour chaque personne qui est ici. Peut-être tu es nouveau, c'est récemment que tu as entendu parler de ce message. Seigneur Jésus, révèle-toi à ce frère, cette sœur qui cherche qui tu es. Puis peut-être que tu es une personne qui connaît Jésus depuis longtemps, mais qui sait que, qui entend que, je dois revenir au pied de Jésus. Je dois revenir à la source. Seigneur, aide-le. Oh Seigneur, aide-le. Et merci d'avance pour ce que tu vas faire dans les jours, dans les semaines qui viennent. On compte sur toi, Jésus.